Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Limoux Angnoc. Je suis économiste à l'Université de Paris 1 et puis je suis également membre du Conseil national du Parti socialiste où j'œuvre à côté d'Henri Emmanuelli pour bousculer un petit peu les idées de ce parti.
Disons. Alors après le référendum, la question qu'on se pose un peu tous, c'est qu'est-ce qui se passe là-dedans? Visiblement, il y a vraiment du grabuge. Fabius a été un peu mis sur la touche. Et quant aux autres partisans du non, on ne sait pas trop exactement ce qu'ils font, du moins pour le grand public. Alors qu'est-ce qui se passe là-haut?
Il se passe que la direction de ce parti est aussi autiste que le gouvernement et que elle n'a pas compris le sens du vote du 29 mai. Au point de se bunkériser et de virer de la direction les opposants, au lieu de rassembler tout le monde et puis de faire vraiment le point sur l'attente des électeurs pour 2007. Et cette attente qui s'exprimait le 29 mai, c'est un ras-le-bol des politiques libérales qui sont menées depuis maintenant une vingtaine d'années, que les gens ont supporté parce qu'on leur expliquait qu'on pouvait pas faire autrement. Mais au bout du compte, le résultat s'avère désastreux socialement et inefficace économiquement. On le voit aujourd'hui, la croissance est en panne, les entreprises n'investissent pas et l'anomie sociale s'installe.
Ils n'ont pas compris ou ils veulent pas comprendre?
Ah, je pense qu'ils n'ont pas compris, tout du moins pour l'aile marchande de cette direction qui est composé, bon, pour que nos auditeurs comprennent, de la mouvance dirigée par Dominique Strauss-Kahn et Jean-Christophe Cambadélis. Des gens qui vous expliquent que le bilan de 97-2002 était bon et que Jospin a perdu au premier tour parce que les valeurs individualistes des classes moyennes se seraient emparées des classes populaires qui elles-mêmes seraient devenues individualistes et donc ne s'engageraient plus et n'iraient plus voter. On vient de voir que c'est le contraire qui s'est produit le 29 mai, que les classes populaires se sont massivement mobilisées sur le non et qu'il s'agit en majorité d'électeurs de gauche, à 70%.
Il y a toujours un petit truc que j'ai pas très bien compris depuis un certain temps, c'est est-ce que la branche majoritaire du Parti Socialiste pense vraiment qu'on va voter pour eux en 2007? C'est, moi je trouve complètement absurde d'avoir prôné que les socialistes aient prôné le oui. Et absurde leur réaction vis-à-vis de Fabius, justement.
Ah ils pensent qu'ils vont se refaire la fraise sur le dos d'un gouvernement de droite qui va s'attaquer au code du travail et qui va dériver de plus en plus vers des mesures de type thatchérienne. Bon, mais si l'alternative c'est du blairisme à la française, moi j'ai peur que ce soit une erreur qui soit la même qui conduit les socialistes, enfin tout du moins la direction, à faire la campagne du oui.
Mais oui, enfin moi par exemple, pour des gens comme moi, ça sera vraiment une erreur. Donc ils prennent le risque de nous laisser, ils prennent deux risques. D'une part, d'appeler encore une fois au vote utile, mais ça fait 20 ans qu'on nous le fait. Et d'un côté, puis de l'autre côté, ils prennent le risque qu'éventuellement on se retrouve avec Sarkozy d'un côté, éventuellement Le Pen en face, hein, au présidentiel.
Oui, mais la bonne nouvelle ici, c'est qu'ils sont peut-être moins cyniques qu'on ne le dit. S'ils étaient vraiment cyniques, ils auraient tous fait la campagne du non et ils auraient ramassé la mise. Mmh. Du mécontentement social, ils l'ont même pas fait. C'est que donc, par conviction, la plupart d'entre eux croient fermement aujourd'hui que depuis 1983, on ne peut pas faire autrement. Et c'est un véritable débat qui traverse le Parti Socialiste depuis sa fondation au Congrès d'Épinay en 1971. Les observateurs et les journalistes le disent pas suffisamment, mais depuis cette date, il y a toujours eu deux lignes qui se sont affrontées. Une ligne... disons socialiste, et une ligne sociale libérale. Ça s'appelait pas complètement comme ça au congrès de Metz, mais souvenons-nous déjà que Michel Rocard et Pierre Mauroy défendaient un recentrage du Parti Socialiste contre la majorité unie par François Mitterrand autour de l'Union de la Gauche pour l'application du programme commun. Et contrairement à ce que l'on a dit, ces deux gauches ont chacune appliqué leur programme. La gauche unie par François Mitterrand a appliqué son programme en 1981, et la deuxième gauche, symbolisée par Michel Rocard, même sans Rocard aux affaires, a appliqué son programme avec la caution de Lionel Jospin entre 1997 et 2002. Moi, j'ai tendance à dire que ces deux programmes-là ont été abandonnés, non pas parce qu'ils étaient inefficaces économiquement, mais parce qu'il y a eu une sanction sociale à chaque fois. La première fois, le programme de 80 a été bien meilleur que le programme monétariste en Angleterre et aux États-Unis à la même époque. Il a été sanctionné uniquement par la spéculation des marchés financiers, décrochant le franc vis-à-vis du marque. Ce qui nous a conduit ensuite à choisir la monnaie unique et l'acte unique. Et puis le deuxième programme, le programme de la deuxième gauche, il a également eu un bon bilan, disait-on à l'époque, même si je crois qu'il fut aidé pour beaucoup par l'euro faible et la baisse des taux d'intérêt. Bon, mais bref, il a été sanctionné aussi socialement par la pire des sanctions, qui est la sanction électorale de son propre camp, le 21 avril 2002.
Des sous et des hommes en compagnie de Lim Wangnok, qui décidément me laissent dans les interrogations les plus profondes. J'avoue ne pas avoir complètement suivi. Parce que vous avez parlé du congrès d'Épinay en 71, puis ensuite du congrès de Metz en 79. Vous dites qu'il y a toujours eu deux lignes à l'intérieur du Parti Socialiste. Là, je suis étonnée, parce que quand on écoute les médias, on nous parle jamais de ces deux lignes, enfin du moins actuellement. Et je vois pas comment ces deux lignes ont pu se marquer dès 71, alors que la mondialisation était pas déjà en branle, on pourrait dire. J'arrive pas à suivre ce qui s'est passé là-dedans.
Ah oui, mais les médias, de même que beaucoup d'observateurs, pensent que il y a deux gauches et que ces deux gauches seraient d'une part la gauche radicale pure de toute compromission, et puis la gauche gestionnaire réformiste qui finirait soit par se rallier aux réalités, soit par trahir si l'on adopte le langage de l'extrême gauche, quoi. Bon, c'est un petit peu réducteur et c'est oublier que le vrai débat n'est pas là. Le vrai débat, c'est un débat entre deux gauches qui existent au Parti Socialiste, mais aussi partout ailleurs. Hein. Moi, je fréquente le mouvement altermondialiste. Je peux vous dire que dans l'attaque, il y a deux gauches. Hein. Il y a une gauche écolo-utopiste, et puis il y a une première gauche beaucoup plus centrée sur les questions de partage du gâteau. Bon, alors au Parti Socialiste, en 1971, François Mitterrand remporte le congrès sur une ligne qui est celle de l'Union de la Gauche pour l'application d'un programme commun qu'on va négocier avec le Parti Communiste, qui est un programme de rupture avec le capitalisme, mais qui en fait, c'est ce que je montre dans mon bouquin, est tout simplement la démocratisation et le prolongement du compromis de 1945 inspiré du programme du Conseil National de la Résistance. C'est un programme très première gauche, si vous voulez, que le programme commun, qui, si vous le comparez au programme du Conseil National de la Résistance, ce sont deux sœurs jumelles. Et le programme de 81, c'est un petit peu ça. Et donc Mitterrand remporte le congrès d'Épinay, puis le congrès de Metz, en défendant l'idée que dans la Ve République, si on veut battre la droite unie autour du président de la République, eh bien, il faut que la gauche fasse bloc autour d'un programme qui soit un programme de gauche pour bien capter l'électorat de gauche, quoi, qui sert ensuite de base à l'application de ce programme. Alors, il gagne ce congrès à Épinay contre la ligne dite de troisième force, symbolisée par Guy Mollet, une ligne qui consistait au temps de la 4ème République à passer des alliances avec le centre quand on arrivait au pouvoir. Et d'ailleurs, la troisième voie de Tony Blair, c'est l'écho de cette troisième force en Angleterre par les temps qui courent. Et cette troisième voie, qui consiste grosso modo à adopter une ligne sociale libérale, a séduit certains socialistes français très tôt. Michel Rocard, en l'occurrence, Dominique Strauss-Kahn ensuite. Et ce sont des gens qui pensent que, eh bien, il faudrait que la gauche se recentre et s'adapte aux réalités de la mondialisation, entendu comme comme un deus ex machina qu'on pourrait pas domestiquer. Bon, moi je suis de ceux qui pensent que la mondialisation, c'est quelque chose, c'est un choix de société qui a été politiquement organisé, qui n'était absolument pas inéluctable, et qui est par ailleurs socialement désastreux et économiquement inefficace. Et ça, ça commence en 1983 en France, lorsque la ligne de 1981 subit la défaite sociale face aux marchés financiers qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, spéculent contre la politique de la gauche. Et à partir de 83, c'est progressivement l'autre ligne, la ligne défendue par la deuxième gauche, symbolisée par Jacques Delors à l'époque, qui va s'imposer. Alors, au départ, c'est pour ouvrir la parenthèse, c'est pour pouvoir faire la monnaie unique et construire l'Europe sociale et fédérale qui nous permettrait de vaincre la spéculation et de faire en Europe ce qu'on n'a pas pu faire en France en 1981. Mais comme on le sait progressivement, cette bouteille se videra. Les dérives libérales de l'Europe se feront très rapidement. Pacte de stabilité Amsterdam, stratégie libérale de l'emploi de Lisbonne, privatisation de l'énergie, réforme des retraites décidée à Barcelone, traité constitutionnel, etc. Et donc là, le bilan de cette période, c'est quand même qu'il y a un rejet massif de l'électorat de gauche, d'une politique qui a pris l'eau de toutes parts.
Là, il y a un petit truc encore que je comprends pas bien. Moi, je croyais que les socialistes étaient là pour défendre non pas les classes moyennes, voire les classes moyennes supérieures, mais le travailleur de base, si on veut prendre des choses comme ça. Et pourtant, d'après ce que vous dites sur cette deuxième gauche, ça me semble pas être la valeur qu'ils défendent.
Bah, la sociologie de ce parti a considérablement évolué depuis 20 ans, à mesure que l'on entérinait les dérives libérales de cette Europe, on a décroché, tout du moins au sein de la direction, des classes populaires. Hein, la fonction et l'habitat fait l'homme, hein, je dirais. Quand vous êtes complètement décroché des classes populaires, vous ne voyez plus du tout ce qui se passe, quoi.
Des sous et des hommes, toujours en compagnie de Limo Ognot, qui est économiste et proche d'Emmanueli. Finalement, dans la campagne pré-référendaire, dans laquelle on a vu des socialistes qui soutenaient le oui et d'autres qui soutenaient le non, finalement, c'était la mise en évidence de cette fracture qui était un petit peu fracture, ou je sais pas, vous corrigerez probablement, qui existe au sein du PS depuis fort longtemps. Enfin, ça nous apparaissait à nous, le pauvre petit peuple.
Ah oui, bah, y a eu deux campagnes socialistes, hein, clairement. Donc, défendant l'esprit d'Épinay, qui au fond était de prôner le non parce que le non rassemble la gauche, bien au-delà du PS. Et prépare les conditions d'une défaite de la droite et les bases sociales d'un programme qui, pour le coup, soit au moins un programme socialiste, pour parodier un petit peu les propos de Lionel Jospin il y a quelque temps, quoi. Bon, et puis le oui que Jospin d'ailleurs considérait comme étant compatible, le oui socialiste avec le oui libéral, bon, préparait le terrain d'une dérive sociale-libérale, cette fois assumée par DSK et compagnie, quoi. Donc là, la clarification est en train de se faire au grand jour aux yeux de l'opinion, et l'enjeu du prochain congrès, c'est définitivement de faire cette clarification. Est-ce que les socialistes français doivent adopter la ligne Blair-Schröder qui conduit ces deux leaders aux pires difficultés à chaque fois qu'il faut affronter le suffrage universel, ou bien est-ce que il faut qu'ils reviennent à l'esprit d'Épinay qui est véritablement ce qui a traversé cette campagne et ce à quoi est sensible le peuple de gauche.
Et quelles seraient les conditions pour que la branche du non, si on veut faire rapidement, puisse prendre le poids majoritaire au sein du futur congrès? Parce qu'ils ont l'air d'être un peu dispersés actuellement.
Nous, on a demandé un congrès de refondation, c'est-à-dire un congrès qui ouvre les portes et les fenêtres pour que tous ceux qui ont envie d'œuvrer à la reconquête de la gauche puissent entrer au PS et puis le renouveler, parce que c'est quand même un petit peu sclérosé le débat qui est à l'intérieur. Bon, on nous a dit non, on nous a organisé le congrès le plus rapide possible pour empêcher les gens d'adhérer et pour que la majorité de Dijon, c'est-à-dire celle du dernier congrès, soit reconduite. Le débat est fermé parce que le dépôt des contributions, c'est dans 2 semaines.
Ah ouais.
Après, il y a les vacances. Et donc, ça veut dire que tout est quasiment verrouillé, sauf si vraiment les grosses fédérations se rendent compte que, bah, comme leur électorat a quand même voté non, s'ils veulent se faire réélire, et là, je suis cynique, il va falloir qu'ils changent de fusil d'épaule et au lieu de s'afficher avec les candidats du oui, s'afficher avec les candidats du non. Bon, mais là, on est dans un congrès d'appareil. À l'issue très incertaine, parce que soit la majorité de Dijon est reconduite, soit il peut y avoir des basculements, mais qui relèveront de calculs d'apothicaire, ce qui est un petit peu dommage, parce qu'on aurait vraiment pu faire un gros congrès de refondation ouvert sur les forces sociales à l'extérieur pour œuvrer un vrai projet. Alors, en interne, mais ça c'est un peu de la cuisine, je pense que il faudrait que les minorités qui ont une identité maintenant clairement affirmée contre la dérive libérale de ce parti fassent une motion commune. Je veux parler des deux motions minoritaires au dernier congrès qui étaient NPS et Nouveau Monde, celle de Payon Montebourg et celle d'Henri Emmanuelli. Ça serait la moindre des choses pour affirmer notre identité. Alors ensuite, Fabius dans cette campagne s'est démarqué de la majorité. Bon, il dit avoir changé d'avis sur beaucoup de points. Bon, charge à lui de démontrer que doctrinalement il reste fidèle à l'esprit d'Épinay. Auquel cas, il devrait être possible d'aboutir à une synthèse entre ces deux motions, si ces deux motions se font, pour éventuellement définir la future majorité du parti. Bon, ça c'est un scénario possible qui dépend de beaucoup de choses dans les grosses fédérations.
Et deux motions, je ne vois pas clairement comment la motion non, si on peut là toujours pour faire rapide, comment la notion non pourrait gagner. Parce qu'à l'intérieur du Parti Socialiste, actuellement, on peut pas dire qu'il y ait vraiment le non n'était pas majoritaire, donc l'opposition au libéralisme n'est peut-être pas majoritaire.
Bah, c'est ce que je vous dis. En l'état actuel des choses, sans nouvelles adhésions et avec un congrès verrouillé ayant pour objectif de reconduire la majorité de Dijon, la bataille va être rude pour convaincre ceux qui sont en place de changer d'avis. Bon, mais la bataille n'est pas forcément perdue. Je vous dis, on va voir ce que font nos camarades du Pas-de-Calais, où à 69%, les électeurs se sont prononcés pour le non. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à défendre des positions qui sont assimilées à des positions sociales libérales? Bon, charge à nous de les convaincre que... le bon choix pour des victoires futures de la gauche se situe pas du côté de ceux qui ont fait la campagne du oui.
C'était donc Des Sous et des Hommes en compagnie d'Olimo Ngnok. Alors il a publié un livre qui est absolument remarquable, un petit peu compliqué pour les néophytes comme moi, mais vraiment qui s'appelle Refermons la parenthèse libérale, au moins c'est net. C'est publié aux éditions La Dispute. Et si on lit juste derrière, il est écrit: le virage libéral de la gauche opéré en 1983 est-il irréversible? Peut-on sortir de l'alternative entre social-libéralisme et néo-utopisme? Tout un programme, et c'est absolument remarquable et documenté pour le moins. Je ne peux que vous en conseiller la lecture pendant les vacances.